France Culture. Bonjour, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Margot Le Ridon, Joséphine Reinhartz, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Sacha Mattei et Christine Anger, réalisé par Vivian Le Cuivre, et à la technique ce matin, c'est François Saint-Jour. Depuis des mois, dans plusieurs pays d'Afrique australe, des peuples remettent en cause l'hégémonie d'acteurs au pouvoir depuis l'indépendance ou la fin de l'apartheid. Dans les rues ou dans les urnes s'exprime un désir de changement. Nous parlerons demain du Botswana où l'alternance s'est faite sans heurts. Mercredi du Mozambique où l'État-parti s'accroche. Jeudi de l'Afrique du Sud, l'ANC s'est allié à d'autres pour regagner la confiance. Aujourd'hui, les Comores, sur la côte Est, dans l'océan Indien, on est au sud du continent. Hier se tenaient des élections législatives dont nous n'avons pas encore les résultats, mais ceux de l'année dernière pour la présidentielle laissent peu de place au doute quant au grand succès du parti au pouvoir.
Azali Assoumani, 62,97%.
Effectivement, on est satisfait, mais on doit penser à ce que la confiance qui nous a été faite par les Comoriens, on n'a pas le droit de le décevoir.
Il n'y a pas eu d'élection ce 14 janvier 2024. Et cela avec un grand regret. Il fait la même chose qu'en 2019. Les Comoriens n'ont pas eu droit à voter le président dont ils souhaitaient.
L'État est là pour nous protéger et attraper les voleurs. Oh, notre président, il a volé les votes, les résultats. Notre président a tout pris tous les pouvoirs de ce pays, même la justice.
Sur l'élection présidentielle de janvier 2024, il y a un an, de nombreuses anecdotes étayées par des vidéos ont jeté un doute immense sur la crédibilité du scrutin. Un élu empêché de glisser dans l'urne la dizaine de bulletins qu'il avait dans les mains dans un bureau de vote tenu par son frère. L'armée qui intervient en plein après-midi, récupérant déjà des urnes alors qu'il reste parfois 5 ou 6 heures de vote. Et au Parlement, une salle de dépouillement restée totalement fermée, à l'abri des regards. Il est encore trop tôt encore pour savoir comment sont déroulées les élections législatives d'hier, mais l'opposition avait de toute façon décidé de la boycotter assez largement, protestant ainsi contre une vie politique depuis longtemps verrouillée par le président Azali Assoumani. Les Comores, voisines de Mayotte, restées françaises quand elles sont devenues indépendantes en 1975, sont formées de trois îles, Moélie, Anjouan et la Grande Comore. La Constitution prévoyait un système de présidence tournante pour que se succèdent des chefs d'État originaires des trois îles, l'un de ces nombreux principes qu'Azali Assoumani a abrogé pour se maintenir au pouvoir. Alors comment ce chef d'État parvenu au pouvoir en 1999 par un putsch a-t-il progressivement contrôlé toute la vie politique de l'archipel ? Sur quels soutiens internationaux peut-il compter quand le cyclone Chido a ravivé les tensions avec le partenaire français ? Bonjour Mahmoud Ibrahim.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire de l'université Jussieu Paris 7, enseignant dans le secondaire et fondateur de l'hebdomadaire Massioua. Nous sommes également en ligne depuis Anjouan, l'une des trois îles des Comores, avec Kamal Sindou. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, vous êtes donc en ligne depuis Anjouan, qui des trois îles des Comores est la plus proche de Mayotte d'ailleurs. 70 kilomètres vous séparent du département français de Mayotte. Est-ce que vous ressentez les effets de la tempête tropicale Dikeledi ? Ça n'a aucun rapport avec les élections, mais évidemment ça a fait, comme ça a fait la une de nos médias en France ce week-end. Est-ce que vous, aux Comores, vous ressentez les effets de cette tempête ?
Ben oui, ben vous avez dit qu'on est à 70 kilomètres de Mayotte, c'est pas loin. C'est le même archipel et donc du coup la même géographie. Donc on a eu beaucoup de pluie hier, beaucoup de pluie, des vents, mais pas des vents très forts. De toute façon, la caractéristique de cette tempête, c'est plutôt la pluviométrie plutôt que le vent. Donc ça se calme un petit peu, on a encore des nuages, La journée était très très maussade, très noire, mais ça va, pas de dégâts ici.
Bon, on vous souhaite que ça se maintienne ainsi et que notre liaison d'ailleurs avec vous se maintienne aussi. Est-ce que les médias comoriens ont davantage parlé de la tempête hier ou des élections législatives ?
Disons que c'est plutôt les élections législatives parce qu'on n'était pas au cœur de cette tempête. Sauf que le lien, c'est que les pluies qui sont tombées sur l'ensemble des îles a fait que ça a joué un petit peu, en tout cas d'après le ministre de l'Intérieur, même si c'est pas tout à fait la vraie raison, mais ça n'a pas permis une grande mobilisation. Les gens prétextant de cela pour rester chez eux, d'abord parce que les élections ne passionnent plus personne. En plus, l'opposition avait appelé à ne pas y aller. Donc voilà, le facteur climatique est venu encourager, renforcer cette abstention-là.
On n'a pas encore les résultats de ces élections. On entend bien, Kamal Sindhu, quand vous parlez des élections d'hier et des arguments qui sont donnés par le pouvoir en place, du peu de participation, la grande vigilance que vous mettez quand vous recevez ces arguments-là. Il se trouve que vous aviez, en 2023, en anticipation de l'élection présidentielle cette fois, vous aviez contribué à fonder un mouvement Karalala, les Sentinelles, qui ne soutenait aucun candidat en lice, mais qui s'était mobilisé pour garantir la transparence des élections. Est-ce que vous avez réitéré cette fois pour les élections législatives d'hier? Est-ce que vous avez essayé de placer des sentinelles justement pour s'assurer du bon déroulement du scrutin?
Oui, pas avec la même intensité que la présidentielle, mais nous avons réactivé notre plateforme parce que le principe de ce réseau, c'est un réseau, c'est de recevoir les différentes plaintes, surtout en images et même en son, pour les relayer. Donc effectivement, on a reçu pas mal. On partage un petit peu tout ce qui se dit dans les réseaux pour essayer de vivre en direct les différents événements de manière à continuer à pointer du doigt les dysfonctionnements des processus qui s'amplifient de plus en plus d'année en année et qui montrent que le régime continue sa méthode d'emprise sur le processus démocratique. Donc la plateforme a fonctionné, pas avec la même intensité, mais on a quand même des éléments de preuve qui sont de plus en plus évidentes, que le système continue de la même manière, avec les bourrages des urnes, les difficultés d'accès aux informations, les problèmes au sein même des bureaux où les présidents se permettent de chasser des assesseurs, des candidats. C'est les mêmes pratiques, en fait.
Donc, vous avez constaté, vous avez recensé, pour l'instant, vous êtes toujours en train de recenser différentes pratiques, ça et là, dans des bureaux de vote où vous avez constaté des fraudes et donc un mauvais déroulement du scrutin. Quel genre de fraude, par exemple,
Les fraudes sont les mêmes. On a essayé, on est en train de les analyser. C'est les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que d'abord, ça commence par les militants des partis au pouvoir commencent par multiplier ce qu'ils appellent ici les procurations, c'est-à-dire des gens qui vont pas voter mais qui vont déléguer à quelqu'un d'autre. Mais ces procurations sont soumises quand même à un contrôle au sein du bureau. Cela ne se fait pas. Ils viennent avec des procurations qu'ils font voter par eux-mêmes. Ça, c'est vraiment la première méthode qui fausse complètement le jeu au départ. Ensuite, donc c'est ça ce qu'on appelle le bourrage des urnes. C'est-à-dire on amène des bulletins, des gens dont on n'a pas la vérification. On ne sait pas s'ils sont morts, on ne sait pas s'ils sont sur les listes, on ne sait pas si effectivement ils ont vraiment donné la procuration à quelqu'un. Ensuite, il y a le fait que les présidents des bureaux qui sont choisis généralement dans la mouvance du pouvoir contrôlent les assesseurs, c'est-à-dire ne permettent pas de jouer leur rôle. Même quand ils dénoncent, hier, il y a eu beaucoup de dénonciations, les gendarmes sont venus, certains ont été compréhensifs pour essayer de régler les choses, d'autres ont chassé les assesseurs contestataires, donc laissant la liberté aux proches du pouvoir de remplir les urnes. C'est essentiellement les deux mécanismes. Après, par la suite, il y a la Commission nationale électorale qui va entrer en jeu plus tard, la Cour suprême qui va entrer en jeu pour valider ou pas valider. Mais voilà un petit peu ce qui se passe. Ça a été documenté. et ça se reproduit.
Alors pourquoi bourrer les urnes, pourrait-on se demander, puisque l'opposition a boycotté ces élections, en réalité pas toute l'opposition. Mahmoud Ibrahim, dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, enfin quand on regarde la carte des élections hier, combien de circonscriptions n'avaient aucun candidat d'opposition? Comment s'est organisée l'opposition choisissant ici d'envoyer un candidat et là de ne pas le faire?
Si on prend par exemple l'île de Moélie, il y a 5 circonscriptions, et sur les 5 circonscriptions, il n'y a qu'un seul candidat qui est dit opposition, parce qu'il est issu d'un mouvement, celui de l'ancien ministre de l'Intérieur du président Azali, le parti Orange. Et sinon, les 4 autres, il n'y a qu'un seul candidat, donc le candidat CRC. Donc ils avaient déjà gagné d'avance là, il n'y a pas eu de contestation ou... Je pense qu'ils ont bourré les urnes sans que les gens puissent voir, puisque s'il n'y a pas d'autres candidats, il n'y a pas d'assesseur de l'opposition. Et à la Grande Comore, il y a eu quelques grands leaders de l'opposition qui sont allés aux élections, malgré les consignes et de leur parti et des différentes oppositions. Donc par exemple, Fahmi Saïd Ibrahim donc l'avocat Saïd Ibrahim ou l'avocat Maître Mzimba au sud, et Saïd Ibrahim c'est Itzinda. C'est des candidats, on était pratiquement sûr qu'ils passeraient chez eux, puisqu'ils ont fait une démonstration pendant la campagne, ils ont réuni beaucoup de monde, et apparemment ils ne sont pas passés.
Il y avait aussi vous commencez à avoir de premiers résultats, ce qu'on n'a pas nous ici sur les agences, mais...
Je me fie à ce que le parti au pouvoir a annoncé hier soir, devant le chef de l'État, à Moroni. Ils ont annoncé avoir remporté donc toutes les circonscriptions dans l'île de Moélie, d'avoir remporté 15 sur 16 à la Grande Comore, et d'avoir tout remporté en juin, les 12 circonscriptions.
D'où, c'est pour ça que l'opposition avait boycotté, anticipant ce grand succès du parti présidentiel distordu, que la réalité ait été tordue ou pas, mais en tout cas les partis d'opposition avaient dit, le parti Joua par exemple avait dit à RFI, ce serait être une vache stupide se réjouissant d'être amené dans un bel abattoir que de participer à ces élections. Mahmoud Ibrahim, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, tout est joué d'avance, et à chaque fois on a le même scénario. Pour le parti Joie, ils ont dit qu'ils n'allaient pas, mais finalement, Fahmi Saïd Ibrahim, il est du parti Joie, et un autre candidat de Moroni Nord est aussi du parti Joie, Papa Mohamed Soulé. Papa Mohamed Soulé n'avait aucune illusion, il l'a dit hier, il a dit qu'il voulait juste mettre à nu le système en place. Mais Fahmi, il avait beaucoup de chance de l'emporter. Il avait fait une démonstration, comme je disais tout à l'heure. En fait, tout est joué d'avance, dans le sens où, au final, il y a une Cour suprême qui va se prononcer. C'est ce qui s'est passé au présidentiel en 2024. La Cour suprême, les juges sont entièrement tous désignés par le chef de l'État. La CENI, la Commission électorale nationale, et tous les membres sont désignés par le président. La dernière fois, il y avait un membre de l'opposition qui représentait l'opposition. Il est en exil actuellement.
L'avocat Gérard Youssouf Abdou, voilà, qui a quitté les Comores après ces élections. C'était le seul, en effet, représentant de l'opposition dans la commission électorale indépendante. Peut-être Mahmoud Ibrahim, un mot sur le vote de la diaspora. 80% de la diaspora comorienne, d'ailleurs, est installée en France. On estime à environ 80 000 personnes la diaspora comorienne en France. Il était question, à un moment, que la diaspora comorienne vote. Pourquoi ce n'est toujours pas le cas?
Ça fait longtemps que la diaspora devait voter. On était vraiment parvenu à un consensus en 2015 avec l'ambassade des Comores à Paris. Et tout était prêt. Et au final, ça a capoté, je pense essentiellement à cause de deux députés, à l'époque il n'était que deux, à l'Assemblée, et deux députés du pouvoir actuel, en fait, de la CRC. Et ensuite, on nous a dit, oui, après les élections, tout va reprendre. Et la constitution actuelle, comme la précédente, prévoit le vote de la diaspora. Donc en fait, tout est en place. Sauf que le chef de l'État est conscient qu'à l'extérieur, il y a moins de pression sur les électeurs, que pratiquement toute l'opposition est réfugiée en France. et que les gens en France, enfin les Comoriens qui sont en France, ne voteraient pas pour le pouvoir actuel. Donc le pouvoir actuel n'a aucun intérêt à organiser des élections pour la diaspora.
Donc des élections verrouillées aux Comores depuis longtemps. Il y a un an, pour la présidentielle, le taux de participation n'avait pas dépassé les 16,5%, 16,3. Un chiffre qui avait été revu et augmenté trois semaines plus tard à 56% selon les chiffres officiels auxquels personne ne croyait. De grandes manifestations s'étaient tenues, principalement à Anjouan et Grand Comore. Je rappelle que donc les Comores, ce sont trois îles. Anjouan et Grand Comore, ce sont les deux grandes îles de cet ensemble, enfin deux îles sur trois, et de grandes manifestations avait eu lieu avec des villes bloquées, des arbres abattus pour barrer les routes.
C'est une voiture remplie de policiers qui roule à toute allure en direction du marché, où on voit des pneus érigés en barricade.
Jusqu'au bout, Azali, il faut dégager.
Il a volé le vote.
Il n'est pas le président.
C'est la population qui ne sont pas contents. Pour ces élections, des élections sont truquées, là. C'est du mascarade, c'est tout. Hein.
En réalité, Azali n'est pas voté par le peuple. Il est couvert par les ces militaires. Mais le peuple ne veut pas aller.
Manifestation à Moroni, la capitale des Comores, au lendemain de l'annonce des résultats de janvier 2024. C'est l'extrait d'un reportage de David Baché pour RFI. Kamal Sindou, vous qui êtes encore une fois à Anjouan, est-ce qu'une contestation de l'ampleur de celle de l'année dernière pourrait éclater de nouveau, puisque les premiers résultats des élections législatives d'hier semblent tout aussi donner des résultats tout aussi importants pour le parti au pouvoir, et vous nous disiez tout à l'heure que personne n'y croyait, ou est-ce que tout a été pensé aussi pour que ça ne se reproduise pas, ces manifestations-là ?
Non, je pense pas qu'il y aura des manifestations, d'abord parce que, à la différence de janvier 2024, les grands partis d'opposition étaient dans la course, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Deux, il s'agit d'élections législatives, donc ça concerne beaucoup plus de circonscriptions. Mais il peut y avoir quelques petits problèmes par-ci par-là, mais ça n'aura pas l'impact que ça a eu la dernière fois. Ensuite, parce que personne ne se fait d'illusions, même ceux qui y vont, ils y vont parce que la démocratie étant un combat, certains pensent que laisser le pouvoir seul sur le terrain n'est pas une bonne stratégie, même si pour l'instant il n'y a pas d'alternative. Comme ils disent, pour le dégager. Je voulais quand même donner une petite précision, parce qu'il y a quand même une circonscription où le candidat qui n'est pas du pouvoir, mais qui est de l'opposition, a été voté. Je pense que ça sera incontestable. C'est la circonscription de Mbini. Monsieur Karila a été élu. Je ne sais pas si vraiment la Cour suprême va trouver des arguments pour le faire, mais ça a été possible. Pourquoi ? Parce que cette ville, qui est très contestatrice contre le régime, est un véritable bunker. Donc, le pouvoir n'a même pas tenté d'aller dedans. Donc, c'est quand même un fait intéressant qui montre que il y a des possibilités, mais ça reste très très faible pour l'instant contre ce système.
Mahmoud Ibrahim, ce genre de cas reste très très isolé. C'est réellement une exception.
Alors, il n'a pas été élu en fait. Hein. Quand la CRC dit on a gagné 15 circonscriptions sur 16 en Gazidja, c'est parce qu'il y a ballotage au sud avec l'avocat.
On rentre dans des détails de chez détails.
C'est ça. Mais ce que je voulais dire, celui qu'on vient d'évoquer là, en fait, il n'a pas été élu. Il a même reconnu il n'a pas reconnu. Il a dit voilà, j'ai perdu parce qu'il y a eu fraude hier soir dans la nuit.
D'accord, il l'a dit. Donc, on parle là de quelle opposition réellement, Kamal Sindou ? C'est-à-dire, est-ce que quand on parle d'opposition aux Comores, on parle d'une opposition qui accompagne le mouvement de protestation de la société civile des Comores, ce désir de changement qui s'est exprimé l'année dernière, ou c'est une opposition qui représente ses intérêts à elle, qui serait constituée de leaders tout aussi opportunistes que celui qui est aujourd'hui au pouvoir ?
Là, il y a un débat, mais moi je pense que c'est tout à fait ce que vous dites, cette opposition-là. Est une opposition formée d'anciens, la plupart d'anciens leaders de partis politiques qui ont été au pouvoir et qui s'opposent à l'emprise du président actuel, mais qui ne proposent pas réellement une véritable révolution du système. Voilà. Ça, c'est un fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande opposition qui est réunie autour de différentes plateformes. Bien sûr, dedans, il y a des éléments qui sont encore, qui sont de très bonne foi. Le cas de Ridja, par exemple, qui essaie de se démarquer de cette opposition ancienne, classique. Mais ici, quand on parle d'opposition aussi, on parle de tous ceux qui vont dans une élection en dehors du parti dominant. Parce qu'il y a des jeunes, hein, il y a des jeunes qui ont été candidats aux législatives, qui n'appartiennent à aucun parti, que tout le monde classe dans l'opposition, parce que justement, il y a un parti tellement dominant que tous ceux qui vont en dehors de ce cadre sont considérés, notamment par ce parti, comme étant des opposants. Parce qu'il y a une véritable ambition hégémonique de ce parti CRC qui fait que, voilà, on fait l'amalgame de tout le monde dans l'appellation d'opposition. Donc, en gros, il y a une opposition ancienne, classique, qui est tout aussi opportuniste, et des éléments qui essaient d'émerger, mais qui n'ont pas encore la force de s'imposer.
L'année dernière, ce sont vraiment 5 candidats d'opposition à la présidentielle qui s'étaient réunis pour déposer des recours auprès de la Cour suprême. Mais comme vous le rappeliez, l'un et l'autre, ces membres ont été nommés par Azali Assoumani, donc ils n'avaient pas obtenu gain de cause pour dire que l'élection était truquée. Avaient fait par ailleurs une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples située en Tanzanie à Arusha. Comment expliquer que l'Union africaine, l'année dernière, avait qualifié l'élection de relativement libre et transparente Mahmoud Ibrahim, et surtout après cet épisode qui avait marqué les Comores et les Comoriens, après l'élection présidentielle, un jeune homme qui avait réellement fait une tentative d'homicide, une tentative d'assassinat du président, qui a été arrêté par l'armée, qui a été retrouvé mort peu de temps plus tard, sa famille a retrouvé son cadavre, je crois qu'on lui a envoyé par la poste en petits morceaux. Ça a été une histoire sordide qui est aussi remontée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, me semble-t-il. Comment se positionne les institutions africaines par rapport aux Comores précisément?
Alors, il y a deux questions. C'est d'abord sur l'Union africaine et les élections aux Comores, et puis la question de la répression et de ce jeune homme qui a été torturé jusqu'à la mort. Alors, sur l'Union africaine, comme sur les autres organisations internationales, c'est toujours le même discours, hein. On dirait même qu'ils font leur communiqué final avant d'arriver, hein. Je n'ai jamais vu vraiment l'Union africaine dire ça s'est mal passé. À la limite, en janvier là, 2024, on a eu l'Union européenne ou les États-Unis qui ont dit non, les élections ne sont pas bien passées, jusqu'à ce que le président Macron envoie la lettre dans laquelle il félicite le président Azali.
Un mois plus tard.
Et tout s'est terminé. Mais l'Union africaine ou même la francophonie, ou même l'EIASF, là, le regroupement militaire, là, qui envoie parfois des observateurs. À chaque fois, c'est la même chose. Lors du référendum de 2018, cette organisation-là d'Est africaine voulait faire une conférence de presse pour dire que les urnes ont été bourrées. Ils se sont installés dans la salle et le commandant de la gendarmerie, qui est actuellement le ministre de l'Intérieur, est arrivé. Il leur a dit non, vous pliez vos bagages et vous partez. Et ils n'ont même pas eu le temps de dire un seul mot. Mmh. Et je pense que les 13 observateurs ont pris l'avion l'après-midi même pour quitter l'île.
Ça n'avait pas pour autant créé de crise diplomatique, puisque la France d'Emmanuel Macron, vous le disiez, avait fini par écrire à Azali Assoumani pour le féliciter. Paris et les Comores entretiennent des relations chargées historiquement. On reviendra en focus sur les coups d'État auxquels le mercenaire Bob Denard était associé. Je rappelle que les Comores sont indépendantes depuis le référendum de 1974 et Mayotte, au même moment, avait choisi par les urnes de rester française. Et alors que Paris avait promis que les résultats du scrutin ne seraient pas décomptés île par île, mais en globalité, Grande Comore, Mohéli et Anjouan sont devenues indépendantes, mais Mayotte non. Et les premières revendiquent toujours leur souveraineté sur le département français, comme le rappelait encore l'année dernière le président Assoumani.
Ça, c'est pas un débat. Mayotte est comorienne. Bon, la France, on n'est pas à Zelensky, on n'a pas les moyens d'affronter la France par la force. Hein? Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est de convaincre aux Français et aux Mahorais que c'est uni qu'on peut mieux faire. Mais si on se divise, c'est personne qui va en gagner. Ça fait 50 ans que les Mahorais dépendent de la France. Ce qui est intéressant, c'est que les Mahorais acceptent que nous, on est unis dans la culture, la religion et l'histoire. Maintenant, c'est le politique qui nous sépare. Et j'ose espérer qu'on peut trouver une solution à ce problème.
On n'est pas Zelensky, on n'a pas les moyens d'affronter la France, disait Azali Assoumani l'année dernière sur Africa 24. Mahmoud Ibrahim, parmi les arguments électoraux mobilisés par Azali Assoumani et son parti pour ces élections, quelle place prend celle de la souveraineté des Comores sur Mayotte?
Il n'en a pas parlé vraiment. Mais depuis tout à l'heure, vous dites les Comores, Mayotte, etc. La position de l'État comorien depuis 1975... c'est Mayotte et Comorienne.
Fait partie des Comores. On a fait une émission là-dessus l'année dernière, d'ailleurs.
Dans toutes les constitutions, Mayotte est dedans. Et après, l'autre chose, c'est il y a une erreur que les médias font souvent, c'est de faire comme si la consultation de 1974 était un référendum d'autodétermination. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'était pas un référendum. C'était une consultation. Et une consultation, ça veut dire je vous demande votre avis, ensuite je fais ce que je veux.
C'est ce qui s'est passé.
Oui, et alors qu'un référendum, eh ben Mayotte serait aujourd'hui dans l'État comorien. C'était un référendum d'autodétermination. Mmh. On a dit on prend le résultat global. Ça devient automatique. C'est-à-dire le résultat devient automatiquement une loi. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'était une consultation. Et donc après, l'État français, le gouvernement a pu faire ce qu'il voulait, puisque c'était une consultation.
Et alors, est-ce qu'Azali Assoumani revient régulièrement sur cet épisode-là? Non. Est-ce que ça a été le cas pendant la campagne?
Non. Ni la campagne de janvier 2024, ni cette campagne-là d'hier. Ce n'est pas une préoccupation actuellement.
Pourquoi?
Des hommes politiques. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils se disent, comme il le dit clairement lui-même, hein, on n'a pas suffisamment de force pour affronter la France. Et donc, tous les ans, en fait, la question de l'île... je cite entre guillemets ce que dit l'ONU, de l'île comorienne de Mayotte, revient à l'Assemblée Générale. Sauf que les Comores disent on retire la question de l'ordre du jour définitif et on recommence l'année suivante. Et à chaque fois, les Comores justifient en disant nous sommes dans des discussions bilatérales avec la France. Mais à l'ONU, le secrétaire général est obligé chaque année de mettre la question à l'ordre du jour. Et à l'ordre du jour définitif, la question est retirée par les Comores. Depuis 1995.
Kamal Sindou, il se trouve que les relations auraient vraiment pu s'envenimer entre les Comores et la France après le passage du cyclone Chido, dévastateur à Mayotte et qui avait causé aussi des dégâts matériels aux Comores, moindres par rapport à Mayotte. Mais Emmanuel Macron s'était aussitôt saisi de ce drame pour dire, et le décalage avait été noté d'ailleurs dans les médias, un discours tout de suite pour dire qu'il fallait renforcer la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, avait précisé qu'il fallait être plus dur vis-à-vis des Comores. On sait très bien, avait-il dit, qu'il y a une politique comorienne qui consiste à laisser partir vers Mayotte. Il avait même parlé de guerre hybride entre donc les Comores et Mayotte, même si on a bien compris que dans le droit international et surtout dans les discours aux Comores, on ne faisait pas de distinction entre les Comores et Mayotte. Est-ce que, où en est cette question-là, Kamal Sindou? Comment expliquer que Azali Assoumani, le président des Comores, ne soit pas rentré dans cette polémique, ne s'en soit pas saisi?
Il y a deux choses. Juste un petit mot sur l'Union africaine. Rappelons-nous que pendant qu'elle allait se présenter aux élections de l'année dernière, Azali Assoumani était quand même président de la commission de l'Union africaine. Et malgré cela, il n'a pas hésité à frauder. C'est quand même assez révélateur de l'ambiguïté de l'organisation africaine. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est du problème dit migratoire tel qu'il est posé de l'autre côté, à la suite de l'instauration des visas, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'immigration vers Mayotte que depuis qu'il y a eu ce visa baladur qui a, je ne dirais pas criminalisé, mais qui a créé une frontière.
En 95.
Qui fait que ceux qui circulent dans l'archipel sont considérés comme étant clandestins. Ce qui est sûr, c'est que il y a une montée en puissance dans le discours français sur ce problème-là pour essayer de le mettre au centre, à tel point qu'on soupçonne l'État comorien, l'Union des Comores, d'une véritable ambition, volonté d'annexion. Je crois que quand même le mot est très fort, de dire que l'État comorien veut annexer Mayotte en utilisant l'immigration. C'est vrai que ça peut être un sujet de discussion éventuellement dans un cadre normal, mais pour les Comores, il n'y a pas de migrés là-bas. Et c'est important parce que ça crée une confusion, puisque depuis quelques années, il y a aussi cette immigration qui vient de l'Afrique de l'Est et qui est mélangée donc avec ceux de l'archipel, qui souvent sont chez eux, ils ont aussi des parents, etc. Donc cette problématique-là n'apparaît pas dans le discours politique ici, parce que c'est un élément à la fois de pression sur le régime, qui sait très bien, on a vu avec le cas de Wambushu, qu'au départ, le gouvernement a essayé de montrer une fermeté sur la question, et très très vite, ils ont été à Paris.
C'était juste pour préciser, l'opération Wambushu en 2023, c'était la destruction des bidonvilles et l'expulsion par bateau de milliers de Comoriens en situation irrégulière à Mayotte.
Voilà. Donc, quand il y a la pression ici, le gouvernement a bougé en disant on ne peut pas laisser des gens se faire expulser, mais très vite, se sont rangés. Donc, je pense que c'est une question essentielle qui, à mon avis, est stratégique pour le régime, pour survivre, doit aussi composer sur ces problématiques-là.
Parce qu'on dit que Moroni a besoin de la France, qui reste son premier partenaire économique, qui lui verse 150 millions d'euros d'aide au développement en échange d'une aide à la lutte contre l'immigration. Kamal Sindou, il se trouve que vous aviez été impliqué, vous aussi, dans l'aide humanitaire à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Est-ce que les Comoriens installés à Mayotte et que la France avait empêché de rentrer chez eux juste après le passage du cyclone ont tous pu rentrer? Il y avait des soignants dans le centre de santé, il y avait des professeurs de lycée, des personnes qui étaient allées voir leur famille à Grand Comore ou à Anjouan ou que sais-je, et qui n'avaient pas pu rentrer à Mayotte pour tout simplement voir leurs proches et aider aussi à la reconstruction immédiate, tout simplement reprendre les cours et soigner aussi les malades. Est-ce que ces Comoriens-là, qui représentent d'ailleurs à peu près un tiers des habitants de Mayotte, ont pu rentrer à Mayotte?
Disons que d'abord, il y a ce qui était paradoxal, c'est qu'il y avait des gens qui sont installés à Mayotte et qui ont une carte de séjour, qui était venu pour les raisons que vous avez évoquées, et à qui on avait empêché de retourner, alors qu'ils sont résidents à Mayotte légalement. Voilà, donc dans leur discours, en tout cas, cela ne faisait pas de problème. Donc il y avait ce problème-là, mais ça a été réglé. Avec le temps, la circulation a repris, les gens retournent. Le problème, c'est que ceux qu'on a expulsés, qu'on a fait partir, qu'on a aidé à partir, et qui n'ont pas les moyens légaux qui sont exigés par l'État français à Mayotte pour y vivre, risquent d'emprunter le même chemin. Donc, cette opération a été malheureuse dans le sens où ça peut provoquer encore d'autres drames, puisque ces gens-là étaient déjà sur place, quoi. Mais quand même, il y a une reprise de la circulation et tous ceux qui sont légalement installés peuvent retourner. Mais c'était quand même curieux de faire partir les gens en pleine situation de ce type. Où les gens avaient des maisons qui étaient inondées, ils avaient des choses à faire, qu'ils ne pouvaient pas, pendant une semaine, retourner chez eux.
Mahmoud Ibrahim, outre le partenariat des Comores avec la France, partenariat économique, qui sont les partenaires privilégiés des Comores à l'international? Sur qui le président Assali Assoumani compte-t-il le plus, et pour assurer aux Comores des revenus ou des aides au développement, et pour se maintenir, lui, au pouvoir?
Alors les aides ces derniers temps sont venues essentiellement des pays arabes. Tout à l'heure vous parliez de 150 millions comme si c'était chaque année 150 millions et comme si cet argent-là était donné directement au gouvernement comorien, à Azali. Ce n'est pas vraiment le cas. Les 150 millions, c'est un accord en 2019. Les Comoriens en gros devaient faire en sorte que d'empêcher
l'immigration
et en échange il y aurait les 150 millions, mais les 150 millions l'ambassadeur de France a dit récemment qu'il n'y a que 15% à peu près qui avait été utilisé, et c'est la coopération française qui gère ces 150 millions. C'est pas de l'argent qu'on a donné directement au gouvernement comorien. Ces derniers temps, l'Arabie Saoudite a donné pas mal d'argent. Ça explique aussi qu'on a enfermé l'opposant principal à Metsambi depuis maintenant plusieurs années. C'est que Sambi, il est plutôt d'obédience iranienne. Et Azali, plutôt Maroc et Arabie Saoudite.
Donc ces influences-là arrivent jusqu'aux Comores.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça explique aussi le fait que la position française est plutôt de laisser faire au niveau Azali. Azali, c'est le président comorien qui a été le plus reçu à l'Élysée. Je pense que même Ahmed Abdallah n'a pas été autant reçu à l'Élysée que Azali. Et ce n'est pas pour rien, c'est aussi peut-être empêcher que les Comores n'aillent vers l'Iran ou vers d'autres pays avec lesquels il y a une coopération.
Une coopération avec les États-Unis aussi. Les Comores se font livrer des drones contre des marchés économiques.
Oui, oui, les États-Unis, c'est nouveau. Mais apparemment, ils s'installent et plus politique que économique. Comme on peut le voir avec les Chinois, font de la politique mais discrètement, mais ils aident beaucoup au niveau économique, construction, etc. Les Américains, j'ai l'impression que ça va directement vers la politique. Et ils se mêlent beaucoup des élections actuellement. Ils avaient promis à l'opposition lors des dernières élections en 2024 qu'ils allaient surveiller, qu'ils avaient promis que bon, il n'y aurait pas de fraude. Et ils ont dû reconnaître qu'il y a eu des fraudes et qu'ils n'ont pas pu les empêcher. Et là, ils ont encore appelé des dirigeants de l'opposition pour leur dire que tout va bien se passer. Et ça s'est encore mal passé. Donc.
Les États-Unis qui font régulièrement des déclarations sur leur inquiétude quant au respect du pluralisme et de la démocratie aux Comores, ce qui n'empêche pas des partenariats. Washington s'est positionné sur la pêche comorienne, sur les gisements de pétrole et de gaz au large de l'île de la Grande Comore, avec l'assurance de bénéficier d'une protection rapprochée. Est-ce que l'argent de ces partenariats, Kamal Sindhu, arrive dans les caisses de l'État comorien et profite aux services publics des Comores et donc plus largement aux habitants, puisque il s'agit quand même de proposer des perspectives à la jeunesse des Comores. Ça reste dans tous les pays du monde en général un argument électoral. Là, dans quelle mesure est-ce qu'on peut proposer des emplois aux Comores, aux jeunes d'aujourd'hui ?
C'est le grand débat parce que le pouvoir actuel, justement, avait fait de cet objectif même un slogan, un jeune, un emploi. Et le chômage, non seulement il est fort, il est très élevé, mais il augmente encore. Il n'y a aucune perspective. Et toute cette jeunesse qui descend dans la rue, c'est pour exprimer cette difficulté-là. Donc, sincèrement, il n'y a pas de transparence sur l'aide. Il y a d'autant pas de transparence que récemment, Mahmoud me confirmera, il y a un député de l'Assemblée nationale française du Rassemblement national qui était venu justement à Moroni pour enquêter un petit peu sur l'aide au développement et qui s'est posé la question de savoir pourquoi la France dit qu'elle est le premier partenaire alors qu'en réalité, selon lui, selon le rapport qu'il a remis, du Sénat je pense, que selon son rapport, l'aide bilatérale est plus importante que l'aide française. Donc en fait, il n'y a pas de transparence sur l'aide, il y a beaucoup de pays qui interviennent, il y a ce qui est visible, les Chinois. C'est eux qui font les routes, c'est eux qui font les bâtiments, comme a dit Ibrahim. Il y a les autres qui aident, qui ont des accords militaires cachés, qui ont voilà. Et puis il y a la France qui gère son argent sur des projets du type insertion professionnelle. C'est des mini projets comme ça dont on n'a pas la mesure. Donc c'est assez ambigu, c'est assez opaque, et c'est tout le problème, c'est qu'il n'y a jamais véritablement de bilan ou de débat national sur l'aide et son utilisation.
Un petit mot pour conclure peut-être, Mahmoud Ibrahim, sur cette histoire de trafic de passeports lors du lancement, c'était en 2008, par un autre président, Ahmed Abdallah Sambi, d'un programme destiné à vendre la citoyenneté comorienne à des populations apatrides du Koweït et des Émirats Arabes Unis pour financer des travaux d'infrastructure aux Comores. On les faisait venir aux Comores, on disait qu'on leur vendait un passeport. Finalement, ce sont près de 48 000 passeports qui ont été délivrés par ce programme, entre 25 000 et 200 000 euros pièce que la plupart des acquéreurs n'ont jamais reçu. C'était une vaste fraude diligentée par une forme de mafia. Est-ce que cet argent est entré dans les caisses de l'État ? Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, Mahmoud Ibrahim. Et est-ce que Azali Assoumani a vraiment mis fin à ce programme quand il l'avait promis à son retour au pouvoir en 2016 ?
Alors, apparemment, tout l'argent n'a pas été budgétisé. Et à un moment, je pense que l'État n'arrivait plus à contrôler la production. C'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes qui avaient la confiance du président Sambi et qui avaient une mallette, qui pouvaient en faire autant qu'ils voulaient, aussi bien à Paris qu'ailleurs, dans le monde arabe. Et puis après, ça s'est continué sous le président Ikililu. Et apparemment, ça se continue encore aujourd'hui. Ils considèrent que la loi peut leur permettre de continuer, mais en réalité, il y avait une limite à cette loi. Mais j'ai vu un article récemment qui disait qu'en fait, ça se continue discrètement.
Ça continue discrètement, tout comme le pouvoir d'Azali Assoumani qui se confirme un peu partout. Il est censé céder le pouvoir en 2029, sauf s'il modifie de nouveau la Constitution ou s'il le donne à l'un de ses fils. L'un est à la tête de la Gendarmerie nationale et l'autre est secrétaire général du gouvernement, ce qui en fait le numéro 2 de l'État. La chanteuse comorienne Zaza naît sur l'île de Grande Comore qui interprète des chants touarabes. Ce sont des chants qu'on chante lors de mariages. Comme ce titre, Langou Zangou, qui date de 2015. C'est une réinterprétation d'un chant traditionnel des Comores. Vous écoutez Culture Monde, premier épisode d'une série consacrée à l'Afrique australe en quête de changement. Aujourd'hui, les Comores où la contestation est silencieuse. L'opposition a boycotté les élections d'hier. La présidentielle de l'année dernière avait été totalement verrouillée et l'armée veille, l'armée des Comores, qui partage une longue histoire avec le mercenaire français Bob Denard.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
L'histoire des Comores est venue comme un cheveu dans la soupe, on dit. J'ai été contacté par le directeur de la compagnie d'aviation des Comores qui m'a expliqué la situation aux Comores. Il y a eu la déclaration d'indépendance et puis qu'il y a eu un mini coup d'État. Et on m'a expliqué que bon, pour réunifier les îles, il faudrait qu'il y ait une petite organisation avec formation d'une armée. Je suis parti aux Comores avec... D'abord, on était 5, avec 5 de mes compagnons.
Extrait issu du documentaire Bob Denard, le mercenaire de la République, réalisé par Gaël Mocker pour France Info. Surnommé le vice-roi des Comores dans les années 80, le mercenaire français Bob Denard a fomenté 2 coups d'État sur l'archipel. Dans quelle mesure son parcours préfigurait l'emprise de l'armée sur la vie politique des Comores? Bonjour Walter Bruyère-Ostels.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en histoire à Sciences Po, Aix-en-Provence. Vous avez écrit « Dans l'ombre de Bob Denard, les mercenaires français de 1960 à 1989 » paru aux éditions Nouveau Monde. D'abord, la première fois que Bob Denard débarque aux Comores pour un coup d'État, c'est en 1975, l'année même de l'indépendance. Pourquoi est-ce qu'il arrive comme ça aux Comores alors que l'île et l'archipel est indépendant déjà de la France?
Comme le petit extrait que vous avez passé le montre, en fait, Bob Denard arrive dans le contexte de la proclamation de l'indépendance par Ahmed Abdallah et immédiatement contesté par Haïli Swahili qui a fomenté une action pour renverser Ahmed Abdallah. Ahmed Abdallah s'est réfugié sur son île natale en jouant. Il y a besoin, en fait, il y a une incapacité des putschistes à prendre le contrôle de l'ensemble de l'archipel. Enfin, je laisse Mayotte de côté. Et Bob Denard, proche des milieux à la fois d'affaires, mais surtout des réseaux, ce qu'on appelle les réseaux Focard, c'est-à-dire les réseaux France-Afrique, va être sollicité pour aider à la reprise d'Anjouan.
Mmh. Donc, sauf que Ali Swali, que Bob Denard a ainsi aidé, donc c'est Denard qui fait le travail, la France en arrière-plan, puisque c'est l'ancêtre de la DGSE qui l'a envoyé. Ali Swali est au pouvoir et il commence petit à petit à inquiéter la France à son tour.
Oui, tout à fait. En fait, rapidement, Ali Swali se rapproche de la Chine, qui est, vous voyez, un acteur depuis longtemps dans la vie comorienne, bascule sur un mode de gouvernement de type socialiste, ce qui effectivement inquiète la France, qui souhaitait maintenir une influence majeure sur l'archipel. D'où l'organisation, enfin le rapprochement dès 1977 en fait entre Bob Denard et Ahmed Abdallah et la préparation de ce que sera le coup d'État du 13 mai 78.
Voilà, il se rapproche de celui qu'il avait contribué à renverser 3 ans plus tôt. Donc il revient, Bob Denard, aux Comores en 78, non sans avoir participé entre-temps à un coup d'État au Bénin raté cette fois-ci. Il part en bateau depuis la métropole avec une quarantaine d'hommes. Quel homme de main, entre guillemets, sera-t-il ensuite pendant le mandat d'Ahmed Abdallah ?
Ah, il sera un homme clé, plus qu'un homme de main en réalité. Alors d'ailleurs, au lendemain du coup d'État, Denard intègre un directoire qui devait préfigurer le gouvernement. Finalement, les protestations internationales devant la figure du mercenaire qu'est Denard, et notamment à cause du Bénin que vous mentionnez à l'instant, fait que Denard se met en retrait. Simplement, il organise la garde présidentielle du président Ahmed Abdallah, devient un homme clé, en fait, par ses réseaux, notamment sur le continent africain, mais aussi avec la France, et de ce point de vue, aussi bien sur le plan militaire que diplomatique, voire dans d'autres champs, il est un homme extrêmement précieux pour le nouveau régime.
En se donnant pour mission de civiliser les Comores, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment Bob Denard met-il à bien cette théorie ou cette ambition qu'il a pour les Comores ?
Bah, Denard, c'est vraiment un homme d'abord né sous la Troisième République, avec l'esprit colonial, y compris dans la période post-coloniale, et donc avec cette idée d'une France civilisatrice. Alors il souhaite être l'homme qui va permettre le développement des Comores, et ça prend plusieurs voies. Il y a des voies internes, si je puis dire, à la vie de l'île. Par exemple, au lendemain du coup d'État, il fait entièrement repeindre par les prisonniers du régime Ali Swahili, la ville de Moroni, pour montrer une ville propre, dynamique. Il lance à travers la garde présidentielle une ferme expérimentale. Il va se rapprocher des Sud-Africains pour développer un complexe hôtelier qui doit enclencher une activité touristique qui sera un des éléments importants du développement des Comores. Donc il a toute une série d'activités comme ça en interne. Et puis, il a un deuxième rôle diplomatique, entre guillemets, alors vis-à-vis de la France, évidemment, vis-à-vis de l'Afrique du Sud aussi, mais plus globalement vers l'extérieur, pour aller chercher de l'argent, pour trouver des relais qui permettront de participer à ce dynamisme de l'économie comorienne. Et il se présente ainsi, du coup, comme le vecteur majeur du développement.
La France, qui, elle, est bien contente de garder la main sur le canal du Mozambique, d'avoir cette plateforme aussi de coopération avec l'Afrique du Sud de l'apartheid à l'époque. Alors, on ne peut pas entrer dans tous les détails de cette histoire. Il faut lire votre livre pour bien la saisir, Walter Bruyère-Ostels. Mais le président Abdallah est tué dans son bureau. Bob Denard quitte les Comores. Il revient 6 ans plus tard, en 95, parce qu'il s'est entendu avec un ancien sous-officier de la garde présidentielle pour renverser le président Saïd Mohamed Djouar, qui a succédé au président Abdallah. Et Jacques Chirac, là, cette fois, envoie l'armée, l'opération Azalée, pour le faire arrêter. Est-ce qu'en quelques mots, on sait si, en fait, Paris était au courant de ce que Bob Denard allait revenir aux Comores et le rôle que la France a joué à ce moment-là ?
Alors, on sait peu de choses de façon certaine, et en même temps, il est quasi impossible, enfin, ils reviennent par bateau comme en 78, et quasi impossible qu'une aussi longue navigation soit restée inconnue de tout le monde. La thèse la plus fréquente est que Jacques Faucard, qui était revenu avec Jacques Chirac à l'Élysée, est au courant. Est-ce que le président lui-même l'est ? Ça, c'est beaucoup plus difficile de le savoir. En tout cas, des gens à Paris le savent. et ce qui laisse penser que beaucoup de monde sait, c'est la première réaction d'Alain Juppé au moment de la prise de pouvoir de Denard. La première réaction française, c'est de dire finalement tout ça ne nous concerne pas. Puis le tollé international va amener la France à réviser sa position et à déclencher l'opération effectivement Azali.
Avec des commandos de marine, des parachutistes et des gendarmes du GIGN, pour faire le pont entre cette histoire-là et les Comores d'aujourd'hui, quelle a été d'après vous, et je poserai ensuite la question à Mahmoud Ibrahim et Kamal Sindou, l'influence de ces épisodes-là des mercenaires de Bob Denard sur la place qu'occupe l'armée aujourd'hui aux Comores? Est-ce qu'elle s'est construite contre cette ingérence ou avec elle, par exemple?
Alors, au temps de Denard, l'armée est complètement minorée et Denard fait en sorte que les moyens aillent vers la garde présidentielle et pas vers l'armée. En revanche, la question des militaires dans la vie politique comorienne, bah oui, elle démarre avec Bob Denard. Le capitaine Kombo Ayouba, qui est présent à ses côtés en 1995, a déjà tenté de faire un coup d'État en 1992. On le retrouvera à nouveau plus tard dans de nouvelles tentatives. Et des compagnons européens, cette fois-ci de Denard, vont eux aussi tenter à plusieurs reprises de déclencher des coups d'État, systématiquement, évidemment, en activant des liens avec d'anciens militaires, enfin des militaires qu'ils avaient connus plus exactement lorsqu'ils étaient aux Comores. Donc on a effectivement ces liens qui sont matriciels, me semble-t-il, et par ailleurs, dans un État voilà, fragile comme les Comores, bah, de façon plus structurelle, l'armée est souvent un arbitre, parce qu'elle dispose de la force.
Merci beaucoup Walter Bruyère-Ostels. Dans l'ombre de Bob Denard, les mercenaires français de 1960 à 1989, votre livre a paru aux éditions Nouveau Monde. Mahmoud Ibrahim, dans un article pour Afrique 21, vous écriviez qu'Azali Assoumani, le président des Comores actuels, à l'époque où Bob Denard et ses hommes étaient tout puissants aux Comores, n'a en fait jamais rien fait contre eux, alors qu'il a longtemps proclamé le contraire. Qu'est-ce que vous vouliez dire?
Bah, d'abord que pendant toute la période des mercenaires, Azali est dans l'armée et il monte peu à peu de grade. Il arrive même jusqu'à la présidence. Et à la présidence, il ne peut pas ignorer les tortures des mercenaires sur les jeunes communistes comoriens. Les tortures et les meurtres, les exécutions sommaires. Etc. Il est au courant et on n'a jamais entendu parler, enfin j'ai jamais vu une archive qui dit Azali a fait quoi que ce soit contre les mercenaires. Au contraire, lors du deuxième ou troisième coup d'état de Bob Denard, en 1995, il est le chef d'état-major. Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache dans une voiture et va à l'ambassade de France. Donc je ne vois pas comment il peut dire qu'il a fait quelque chose contre Bob Denard. L'autre chose, c'est on sait beaucoup de choses maintenant sur le coup d'État de 1995, après le procès Bob Denard de 2006. Hein. Il y a eu des témoignages et des gens qui sont venus dire comment ils ont organisé les choses. Hein. Bon, ce serait très long à expliquer, mais ouais. On sait beaucoup de choses.
Mais un tout petit mot de conclusion vraiment rapide, Kamal Sindou, si vous le voulez bien, sur cette armée comorienne qui est aujourd'hui l'arbitre ultime dans des contextes d'instabilité politique. C'est le cas. C'était le cas encore hier pour les élections législatives.
Oui, en fait, l'armée arbitre. En fait, en tout cas, l'armée comorienne n'a jamais joué un rôle d'arbitre entre les forces politiques. Et c'est toujours allié à une force politique, et notamment au pouvoir. Donc, parce que c'est la culture de l'armée laissée par les mercenaires. L'armée a toujours été un maillon important qu'utilise les pouvoirs pour essayer de se maintenir, de créer la peur. C'est ce qui se vit aujourd'hui. Vous avez vu avec toutes les manifestations, les arrestations, les jeunes. Voilà, réprimé, voilà.
Merci beaucoup Kamal Sindou d'avoir été avec nous en direct depuis l'île d'Anjouan, donc une des trois îles de l'archipel des Comores. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et merci beaucoup Mahmoud Ibrahim, docteur en histoire de l'université Jussieu Paris 7 et fondateur de l'hebdomadaire Massiwa. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Vous nous emmenez en Corée du Sud ce matin, Catherine, où les actes antiféministes se multiplient.
Dans une ambiance même de paranoïa chez les hommes, explique la BBC et le Korea Joonghang Daily, le quotidien sud-coréen s'arrête notamment sur un geste de la main, vécu comme plus insultant encore qu'un doigt d'honneur. Il s'agit du pouce qui se rapproche de l'index. Ce geste, connu sous le nom de pince de crabe, est vu comme une attaque désobligeante contre la taille du pénis des hommes en Corée du Sud. Et c'est ce qui a valu des menaces de mort et de viol à Darim, une femme qui travaillait au développement de personnages de jeux vidéo raconte la BBC. Dans une bande-annonce, de jeunes joueurs ont cru déceler sur un personnage pendant une microseconde ce geste féministe. En quelques heures, l'entreprise a supprimé la vidéo. Quant à Darim, si la police a refusé d'enregistrer sa plainte, estimant qu'elle avait mérité cette campagne de cyberharcèlement, et bien suite à l'indignation des organisations féministes, la police a fait marche arrière et rouvert l'enquête, rapporte le Korea Joonghang Daily. Mais Darim n'est qu'une victime parmi d'autres de cette chasse aux sorcières sur Internet, ajoute la BBC. Les campagnes de harcèlement se multiplient en ligne, des entreprises de jeux vidéo refusent même de faire des mains à leurs personnages, ils n'ont plus que des poings. Et dans la vie réelle, une association féministe a elle été condamnée pour avoir organisé des manifestations de soutien contre ces campagnes de cyberharcèlement. Les entreprises coréennes ne sont pas les seules à avoir capitulé, ajoute le Korea Herald. L'été dernier, le constructeur automobile Renault a suspendu l'une de ses employées accusée d'avoir fait ce geste de la pince de crabe dans des vidéos promotionnelles. Polémique sur la misandrie, appel au boycott des véhicules Renault, débâcle en matière de relations publiques, résume le Korea Times et le South China Morning Post. Renault Corée a présenté ses excuses et a fini par suspendre son employé, indique la BBC. Dans une Corée notoirement patriarcale, souligne le quotidien Korea Joonghang Daily, les femmes tentent de s'élever contre le sexisme tandis que les hommes se battent, eux, pour maintenir le statu quo, pour faire taire les féministes. Les hommes s'adaptent mal à une société où les femmes sont plus instruites, rivalisent avec eux pour l'emploi et ne veulent pas avoir d'enfants, confirme le quotidien sud-coréen Han Kyo-rye et The Economist.
South Korea has one of the worst gender equality among OECD nations.
La Corée du Sud est l'un des pays de l'OCDE où l'égalité entre les hommes et les femmes est la plus faible, rapporte Al Jazeera. Récemment, un membre du conseil municipal de Séoul a utilisé un argument d'une autre époque, expliquant que la présence accrue des femmes sur le marché du travail rendait plus difficile pour les hommes la recherche d'un emploi. Ce politique suggère que la Corée du Sud est en train de devenir une société dominée par les femmes, ce qui pourrait entraîner une augmentation des tentatives de suicide chez les hommes. Mais les femmes sont bien les premières victimes de la violence actuelle en Corée du Sud. En novembre 2023, rappelle le Séoul Shinmun et la BBC, une jeune femme qui travaillait dans une supérette la nuit a été rouée de coups par un homme au motif que ses cheveux courts révélaient un engagement féministe. Cette femme souffre aujourd'hui encore des séquelles, mais elle se dit féministe résolue. Quant à son agresseur, il a écopé de 3 ans de prison l'automne dernier et pour la première fois, relève la BBC, un tribunal sud-coréen a jugé qu'il s'agissait d'un crime à motivation misogyne.
Et pour la suite de votre revue de presse internationale, Catherine Dutu, vous avez ouvert la presse britannique puisque le Royaume-Uni veut devenir leader mondial de l'intelligence artificielle.
Le gouvernement travailliste veut un déploiement public massif de l'intelligence artificielle, qu'elle soit intégrée, qu'elle coule dans les veines de la nation, rapporte The Independent et Sky News. Malgré les craintes du public sur les conséquences, sur les effets de l'IA au quotidien, souligne le Guardian. Le Premier ministre Keir Starmer va donc dévoiler aujourd'hui un plan en 50 mesures, à commencer par la création de nouveaux centres de données gigantesques, permis de construire accélérés notamment, ainsi que l'ouverture de l'accès aux données du NHS, le système de santé britannique et à d'autres données publiques. Selon le gouvernement, l'intelligence artificielle pourrait réduire de 20% les heures de travail de nombreux fonctionnaires britanniques, y compris les enseignants, en réduisant le temps passé à la paperasse à faire des rapports, explique The Independent. Les ministres estiment aussi que l'IA peut aider à lutter contre la croissance économique anémique au Royaume-Uni et fournir, selon leurs propres prévisions, 47 milliards de livres sterling par an, note encore Sky News, 13 000 emplois espérés grâce à l'IA. Mais en reconnaissant qu'il existe encore un manque d'expertise au Royaume-Uni, le plan comprend également une stratégie de recrutement pour apporter du sang neuf, pour accompagner le gouvernement dans ce qui est décrit par le Guardian comme la dernière révolution industrielle. Le Premier ministre travailliste Keir Starmer veut aussi accélérer les investissements avec de nouveaux réacteurs nucléaires miniatures, explique le Télégraphe, pour faire fonctionner cette technologie gourmande en énergie. Si vous avez la moindre question ou remarque sur la revue de presse internationale, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Nous y reviendrons dans la revue interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu.